Alors, nous avions vu hier deux aspects de la conversion, à savoir que, dans le fond, nous faisons obstacle un peu à la conversion par diverses de nos attitudes. Hein, le fait qu'on se dit bon, « c'est pas pour moi, je suis pas capable », moyennant quoi, ben on reste confortablement assis dans nos limites. Et cela nous empêche, nous sommes les victimes dans le fond, puisque ça nous empêche de faire la rencontre avec Jésus. Et nous restons dans les limites que nous nous sommes fixées, surtout que ça ne fasse pas trop mal. Il disait hier justement, quand on se convertit et qu'on va vers le Christ, ben ça nous arrache un peu à notre situation, notre condition présente. Et nous rencontrons toujours, en même temps que cette joie que nous ne connaissions pas jusque-là, nous rencontrons aussi une certaine forme de souffrance, puisque nous sommes arrachés à la situation où nous étions précédemment. Et donc l'opération s'opère, se déroule relativement avec peu d'anesthésie. Alors, un autre aspect que je voudrais aborder ce matin de la conversion, et il était sous-jacent déjà hier à travers le fait que il y a une douleur si nous sortons de nous-mêmes, c'est que la conversion, et vous le vivez en ce moment à travers le pèlerinage, est un exode. La conversion nous fait sortir, donc on l'a vu hier, de nos limites pour aller vers quelque chose d'inconnu. Oui, dans les programmes politiques, on nous annonce ce qu'on va faire, puis parfois on l'attend très longtemps. Tandis que là, le Seigneur nous dit, tu me fais confiance, lève-toi, marche, n'aie pas peur. On a vu aussi que le démon est le maître de la peur. Et lorsqu'on se dirige vers le Seigneur, ben, dans le fond, généralement nous avons physiquement un toit, matériellement, mais on n'a plus, dans le fond, où se reposer. C'est ce que dit Jésus, hein, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et donc les frères du Christ aussi, ceux qui sont frères de cœur, n'ont pas où reposer leur tête, parce qu'ils entraînent toujours plus loin. Et nous aimons bien, hein, naturellement, dans notre psychisme, des trucs bien établis, avec des limites, savoir où on va. Hein, ben, ne serait-ce que pour faire un PV, il faut savoir où on va, il faut savoir où loger, etc. Mais une vie donnée entièrement à Jésus ne sait pas où elle va. C'est lui qui, dans le fond, invente sans arrêt, ou nous fait découvrir sans arrêt notre vie. Et ben, vous avez les figures archétypales dans l'Ancien Testament. Il y a d'une part Abraham. Et vous avez aussi tout le peuple hébreu, l'Exode. Et Abraham, il quitte son pays. On peut retrouver ça aussi dans le psaume, je ne sais plus si c'est le 44, je crois. Quitte ton pays et la maison de ton père, et le roi sera séduit par ta beauté. Vous voyez, quitte ses façons de voir, de comprendre, d'aimer, de saisir les choses, d'avoir des opinions sur les choses, et le roi, qui est le Christ, hein, si on le transpose dans le Nouveau Testament, le roi sera séduit par ta beauté. Et donc, l'archétype, c'est Abraham, la première figure archétypale, c'est Abraham qui quitte son pays, il a le malheur de prendre avec lui son neveu, et on sait que toute sa vie va être sans arrêt un exode, des campements, ne peut pas s'établir, alors il quitte la stabilité du pays où il était, ses liens familiaux, la seule personne extérieure à la famille qu'il prend, c'est Lot, puis au bout d'un moment, Lot n'est pas fou, il dit, j'ai repéré la vallée du Jourdain, là il y a de l'herbe, j'y vais avec les troupeaux, et lui préfère choisir, prendre ce qui reste le désert. Donc, vous voyez, la situation qui en apparence est la plus défavorable. Puis après on lui demande de sacrifier son fils. Et vous voyez, toutes ces étapes, pour finir, sont des étapes extrêmement dépouillantes. Et ce que lui dit Yahvé, ben, ta descendance sera aussi nombreuse que les astres du ciel, que le... Mais qu'est-ce qu'il a vu durant sa vie? Un gamin, on lui demande de le sacrifier. Or, ce que dit Dieu se réalise, mais ça se réalise à l'échelle divine, c'est-à-dire que tout est transposé dans l'éternité divine. Et effectivement, Abraham voit ses enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel, c'est tous ceux qui se convertissent, justement, et qui se laissent envahir par Dieu. Mais ce que propose souvent le Seigneur, c'est assez déroutant pour ici-bas, parce que, voilà, un gamin par rapport à la multitude qui est promise. Et voyez que tout cela tire sans arrêt, dépouille sans arrêt pour nous conduire vers des choses que nous n'avions pas naturellement envisagées. Et si vous prenez le peuple hébreu, nous savons fort bien, au début c'est enthousiasmant, on quitte la situation d'esclavage, on passe la mer Rouge, on voit les cadavres des Égyptiens, on est enfin libéré, puis au bout d'un moment quand même, la vie dans le désert, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un désert matériel, c'est aussi un désert intérieur, ben, quand même c'était peut-être pas mal de rester esclave et d'avoir à manger à notre faim. Vous voyez, le Seigneur a l'art aussi de pousser l'élastique jusqu'au bout, hein, presque à la limite de la rupture. Mais ce qu'il veut, lui, c'est libérer intérieurement ce peuple pour que ce soit un peuple qui soit uniquement pour lui et qui vive de lui, a fortiori dans le Nouveau Testament. Et donc, notre vie chrétienne est une vie, si nous nous livrons à l'Esprit, qui sera constamment un exode. Hein, il n'y a pas de site. Vous voyez, on est dans un monde où il faut avoir des sécurités partout, hein, avec des assurances, des retraites, partout, tout est sécurisé. Ouais, tout est programmé jusqu'à la mort. Il y a des EHPAD, là, on en discutait encore hier avant-hier avec la voisine, montrant que ce n'était pas la panacée et que c'était là surtout pour soustraire du pognon aux personnes âgées et aux familles. Donc, ça demande, on évoquait hier la prière, ça demande vraiment une ouverture. Hein. Vous voyez, je vous parle de la prière chaque fois sans forme, mais vraiment une relation, se livrer. Être disponible pour que l'Esprit agisse en nous et faire ce que l'Esprit nous demande. Alors, ce que nous avions évoqué, c'est que plus nous nous tournons vers nous, moins on comprend. Hein, pourquoi il m'arrive ça et pourquoi je suis dans telle situation. Et nous essayons de débattre avec nous-mêmes et on voudrait aller vers Dieu en montant. C'est logique, être plus. Mais manque de bol avec le Seigneur, c'est être moins. C'est-à-dire pourquoi être moins? Parce que tout ce qui est de nous est un obstacle à l'action de Dieu. Et voilà pourquoi je n'ai jamais lu le livre, mais je me rappelle du titre qui était très frappant. Au lieu d'appeler Dieu le Très-Haut, il est appelé le Très-Bas. Il vient nous chercher en bas. Donc, c'est-à-dire dans l'incapacité que nous avons et dans l'abandon de vouloir monter pour que ce soit lui qui nous fasse monter. Ce fut la grande découverte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui voyait bien ses désirs ardents de monter, mais qui était dans l'incapacité. Alors elle dit, ben voilà, je dois non pas faire l'effort de monter, mais de descendre et de devenir de plus en plus petite. Pour que ce soit lui, il n'y a que lui qui puisse nous faire monter. Et donc, plus nous pensons à nous-mêmes, plus nous pensons à nos stratégies de conversion, moins on y arrive. Et je pense que, voilà, c'est ce que je disais, simple, la personne la plus heureuse est la plus oublieuse d'elle-même. Et on pourrait dire, inversement, la personne la plus malheureuse est la personne la plus attentionnée à elle-même. Parce qu'elle voit toujours ce qui lui manque. Hein, sur le plan matériel, sur le plan physique et même sur le plan spirituel. Donc c'est celle qui est la plus repliée sur son ego. Et donc, tout... Je ne sais pas, tu me dis, hein, parce que c'est court. Voilà, quoi, plus nous voulons faire quoi que ce soit par nous-mêmes, sans Dieu, moins on mérite. Et vous, dans la prière eucharistique numéro 2, hein, Dieu Saint, toute sainteté vient de toi, mais non pas de moi. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la sainteté. Alors nous en faisons des caricatures, des trucs à l'eau de rose, des trucs dévotionnels, et c'est pas ça. Oui, il nous a donné une personnalité. Nous sommes tous différents les uns des autres. Et il veut que cette personnalité se réalise plénièrement, et non pas en imitant une personne ou une autre, ou quelque chose auquel on ne peut pas arriver. Et cela nous libère, dans le fond, totalement de nos stratégies et de nous-mêmes. Il nous veut libres, il nous a fait pour un plein épanouissement de notre être, et c'est nous qui bâtissons des limites. Et par ces limites, jamais nous livrons véritablement à son esprit sanctifiant, l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous sanctifie. Et pourtant, vous voyez, encore Vatican II le rappeler, Constitution Lumen Gentium, chapitre 5, sous chapitre 39-40, vous voyez, j'ai pris les références, dans l'Église, tous sont appelés à la sainteté. Tous, nous sommes appelés à la sainteté, mais on pourrait rajouter à une sainteté personnelle. La sainteté d'une mère de famille, d'un chef d'entreprise, d'un maçon ou d'un religieux, ne sera pas la même. Ça, saint François de Sales insistait là-dessus, c'est que, voilà, on ne peut pas demander à un père de famille de passer 4h30 par jour à l'église. Ça n'a pas de sens. Donc, Dieu veut, on pourrait dire, cette perfection, il veut nous la donner, mais à travers ce qu'il nous a demandé de remplir dans la société et au sein de l'église. Alors, je vous avais évoqué hier le démon. Les démons cherchent toujours à nous ratatiner dans nos limites. Je vous avais évoqué ça, on pourrait résumer l'action du démon, il fait toujours percevoir qu'on a bouffé la soupe sans nous. Donc on est très malheureux. Alors que le Seigneur nous demande au contraire de regarder vers lui. Je vous avais évoqué aussi les années précédentes, mais j'y reviens, c'est toute l'histoire du péché originel. Si vous regardez l'histoire du péché originel, le tentateur peut percevoir aux gens, à Adam et Ève, que Dieu ne veut pas leur bonheur, qu'ils ne seront pas heureux avec eux, et qu'il faut qu'ils prennent leur destinée en main. Ils seront bien plus heureux comme ça. Ça, c'est la grande ruse. Et après, ils s'aperçurent qu'ils avaient perdu les caleçons molletonnés, pour reprendre Popette. Hein. Ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Vous voyez, c'est une nudité existentielle, où on ne sait plus qui l'on est, qui l'on va, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux, on voit bien tout ce qui nous rend malheureux. Alors voilà, je n'irai pas plus loin, mais vous avez compris que le Seigneur va nous demander de descendre pour pouvoir nous prendre. Mais c'est comme un gamin qu'on voudrait bien prendre et qui gesticule sans arrêt. Ou alors l'exemple aussi des chats. Hein. Ils aimeraient tellement se faire caresser, mais dès qu'on veut les caresser, ils partent un mètre plus loin. Et on est un peu comme ça, quoi. Alors après, bien évidemment, on ne rencontre rien, quoi, que nous-mêmes, nos problèmes, et puis l'action des ténèbres qui toujours veulent nous replier sur nous pour nous autodétruire.